entrez.
Un conseil, madame, un conseil, monsieur.
Le mardi.
Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez...
de la culture.
Car il faut manger, manger, manger
le mardi.
Avant que ce soit les radis qui nous mangent, il faut manger, manger, manger
le mardi.
Et des tas de laitues et des tonnes de pissenlits.
J'en veux pas si c'est pas des nouilles, si c'est pas des nouilles, j'en veux pas.
Que va-t-on manger?
Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres.
Il est l'heure de mardi, miam miam!
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi?
Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici.
Et moi, pour les gonzesses, je suis super d'accord avec toi. Mais pour la bouffe, je vois pas ce que tu veux dire. T'aurais envie de manger quoi, exactement?
Bah, je sais pas. Par exemple, une quiche Lorraine.
Une wish.
Une quoi?
On dit une wish Lorraine.
T'es sûr? Ça fait bizarre, Wish Lorraine.
Mardi.
Miam miam.
François, où nous sommes?
Nous sommes au restaurant Le Pastis, rue Terral, à Montpellier, avec Ariel Garcia-Valdez.
Ariel Garcia-Valdez, bonsoir.
Bonsoir.
Comme vous l'avez compris, nous, après Hervé Di Rosa, première émission, cette seconde émission, c'est pour évoquer avec une personnalité du milieu artistique une autre dimension de l'art, l'art culinaire, mais aussi à travers ça, c'est parler de vous, de votre travail, de vos envies et de vos goûts en général. Donc on va décliner comme ça,
ouais,
petit à petit, avec le menu, avec entrée, plat, dessert, plusieurs thématiques. On rentrera un peu plus loin et en profondeur dans la connaissance de votre vie.
Aïe, 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 aïe. Surtout un lundi aussi paisible qu'aujourd'hui. Hein?
Un lundi paisible qui est juste la veille d'un mardi moins paisible, non?
Oui, oui.
Qu'est-ce qui se passe pour vous demain?
Non, mais mardi, j'ai plein de trucs, parce qu'après, je dois partir, je dois aller, je joue à New York, le quartet de Heiner Müller, mis en scène par Bob Wilson avec Isabelle Huppert. Et je crois que ce spectacle se finit là, mais quoi qu'il y a une possibilité, ils veulent aller au Japon. Et on joue 12 fois à New York. Quoi. C'est même très rare en français, parce qu'en général, les spectacles français jouent 3-4 fois. Et là, c'est une longue série. C'est un producteur privé qui a acheté le spectacle. Je ne sais pas si c'est... Je crois qu'un mec a vachement de pognon, il a acheté ça. Et puis, oui, parce qu'il n'y a pas de subvention aux États-Unis. Les théâtres ne sont pas subventionnés. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais en tous les cas, ça ne marche pas comme ici, ça c'est sûr. Donc, non, c'est le bonheur de d'aller dans cette ville quand même, qui nous fait rêver, même si. Moi, je ne suis jamais allé, mais je vais aller à Greenwich Village. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce que forcément, tous ces quartiers, au bout d'un moment, ça a changé.
Ouais.
Mais même, il doit rester quelque chose de dans l'air, quelque chose des traces de certains. J'ai adoré la Beat Generation, Allen Ginsberg, William Burroughs, Jack Kerouac, tout ça. Donc j'ai regardé dans un hebdomadaire, j'avais vu le renouveau de New York depuis les deux tours qui ont chuté. Et ils disent que toute la ville a changé, l'esprit des gens a changé, il y a comme une solidarité, un sursaut des gens, une chose collective qui se fait dans certains quartiers. Ouais, puis il y a des jardins communs, j'ai vu à Brooklyn comme ça, ils ont enlevé les barrières, ils ont jointé les petits jardins. Non, il y a comme, c'est un léger mouvement, mais c'est quand même toujours du mouvement, quoi. Dès qu'il y a ce petit sursaut, ce frémissement. On est heureux, puis on est heureux d'être sûrement dans la ville. Quoi. Le pire, et malheureusement, j'ai l'impression de la connaître avant d'y être allé, quoi. Enfin, d'y avoir marché.
Tu n'as jamais joué là-bas?
Non, j'ai jamais joué. Non, 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 j'ai jamais. Mais j'ai lu les bouquins Edward Selby, Last Exit to Brooklyn, un livre qui a écrit que deux bouquins, ça, puis Le Démon. Un livre qui m'avait vachement impressionné. Et puis il y avait une photo dans l'hebdomadaire où ils étaient tous les trois à Washington Square, Greenwich Village, sur la place. Alors j'ai cherché un hôtel J'ai trouvé un hôtel sur la place. Non, c'est la bêtise, mais en même temps, c'est toujours le fil auquel tu te raccordes, même si tu sais que le temps n'est plus là-dessus et que c'est devenu très touristique. C'est comme partout, ça échappe pas. Hein, je veux dire, c'est pas grave. Mais on espère toujours qu'il y a du frottement, quelque chose qui se passe. Ouais. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. And oh, take me off your mailing list for kids who think it still exists. Yes, for those who think it still exists. Maybe I'm wrong and maybe you're right. Maybe I'm wrong and maybe you're right. Just maybe all right. And maybe mother told you true. And there'll always be somebody there for you, and you'll never be alone. But maybe she's wrong. Maybe I'm right, and just maybe she's wrong. Maybe she's wrong, and maybe I'm right, and if so.
Dans la tournée comme ça, que ce soit à New York ou ailleurs, est-ce qu'il y a aussi une envie de découvrir la gastronomie du pays?
Ah ouais, c'est le premier truc en fait. C'est la première chose qui nous préoccupe quand on est. Enfin, mais nous, c'est vrai, les gens du théâtre ont mis vachement, énormément sur la gastronomie. Mais pas de forme mondaine ou pseudo. C'est comme une chose, un lien physique avec la nourriture. Qui est lié au théâtre, c'est aussi une forme de tendresse qu'on a envers nous-mêmes. Parce que quand on est en tournée, on croit que c'est bien, et en même temps c'est dur, on est dans des hôtels, même s'ils sont vraiment bien, il y a comme une solitude, une chose de retraité au fond.
Mardi, miam miam.
Là j'ai fait une tournée avec un spectacle qui s'appelle La Rose et l'Âge. D'ailleurs moi je suis un comédien un peu spécial, l'air de rien, parce que ça faisait 20 ans que je jouais plus.
Alors, et pour un type qui avait dit qu'il jouait plus, tu fais des tournées là quand même.
Ouais, parce que j'avais repris ce spectacle qu'on avait fait 25 ans en arrière, qui s'appelait La Rose et l'Âge, qui était comme un spectacle mythique, mais faussement mythique. On l'avait joué à Grenoble, on l'avait monté très vite en 3 semaines, un petit Richard III en 3 semaines, et on l'avait joué 3 fois à Grenoble, mais dans une salle de cinéma de banlieue, une mauvaise salle, parce qu'on n'avait pas d'endroit. On l'avait joué une fois à Paris pour l'anniversaire du théâtre d'Aubervilliers, mais il y avait le tout Paris du théâtre. Et ça avait fait un choc. C'était un spectacle où on utilisait les micros HF, peut-être pour la première fois, où il y avait des danses à l'intérieur, mis en place par Jean-Claude Galota du groupe Émile Dubois. C'est toute une chose qu'on faisait comme des travaux pratiques du théâtre, mais à une vitesse folle, qu'on montait en un rien de temps. Et dans cette vitesse-là, dans cette folie, il y avait une échappée de nos gestes artistiques, le nôtre, quoi, qui pouvait se démultiplier, qui prendre une grande dimension. Puis là, ben, ça avait peut-être tapé juste. Et puis sur un autre, on pouvait se tromper, quoi, très fortement. Mais c'est ça qui est bien. Ah bah dis donc, mais là c'est du sérieux là, on démarre fort. Hein?
Alors on démarre avec une petite ratatouille servie froide, un œuf de poule qui est frit dessus, et une glace au persil. l'émulsion aux herbes. Courage de la question.
Merci beaucoup. Lionel Seux, le patron du pastis.
Oui. Merci Lionel. Ah ben dis donc là, hein, t'as du sérieux là.
Ouais.
Ah ouais.
Vous avez pas goûté la carotte au chocolat?
Ah ouais, j'ai pas osé. Parce que j'ai senti que je devais parler, je dis merde, si je goûte ça, peut-être trop quand même, ouais.
Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce déclic. À un moment donné, pourquoi vous arrêtez? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, mais parce que en même temps, j'ai toujours peut-être été comme ça. On avait un groupe avec Georges Lavaudant, un groupe de... On était une dizaine d'acteurs, en fait. J'ai toujours été un type qui, au bout d'un spectacle, dit aux copains acteurs et aux copines qui jouaient avec moi, écoutez, là j'arrête, là. Enfin, c'est la dernière fois que je fais une pièce, elle ne me demandait pas de faire la prochaine. Et puis à la prochaine, Ariel, tu sais, on est encore sur un truc, tu veux pas le faire? Ah non, allez, va, bon, allez, je viens, mais alors vraiment, c'est la dernière. Et j'ai fonctionné comme ça tout le temps avec j'ai toujours eu, au fond, l'envie tout le temps d'arrêter, quoi. Il y a eu comme un truc. Chez moi, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas.
Il y avait un autre moteur à côté, l'envie d'arrêter pour aller vers autre chose?
Non, pour aller vers rien. Pour dire la vérité, pour aller vers rien. Non, c'est vrai, ouais, mais ce n'est pas du tout l'envie. Je ne veux pas faire ça, je veux faire autre chose. Non, c'était cet endroit du rien, de l'inutile, d'être là, de passer des journées dans les bars, d'aller dans la montagne, dans un endroit entre deux, quoi. Toujours été un peu comme ça. Donc l'idée d'arrêter m'a toujours traversé. Même là, je m'occupe de l'école de Montpellier, mais toujours cette idée d'arrêter peut me venir toutes les semaines, quoi. Et en même temps, c'est mon moteur. C'est comme un truc qui fait que c'est l'endroit où on a un truc irréductible. Il faut continuer, mais essayons faire que la machine soit... Je sais pas, que ce soit...
Donc on peut continuer toute une vie en ayant envie d'arrêter tous les jours.
Ben oui, non, sincèrement. Et je crois que ça, au bout d'un moment, ben, j'ai réellement arrêté, quoi. Enfin, mais j'ai réellement arrêté après un autre Richard III. Il y avait Richard III de Carmelo Bene qu'on avait fait dans cette époque merveilleuse de Grenoble. On était à la Maison de la Culture, tout ça. On avait des gros moyens à ce moment-là. Et on faisait, un théâtre qui prenait vraiment des risques à chaque fois, autant sur les classiques et les choses contemporaines. C'était des choses qui n'avaient jamais existé auparavant. Bon, tout ce mouvement et qui s'est achevé par le Richard III à la Cour d'honneur en 84. Hein, c'est con à dire, mais c'est comme ça, qui a été un des plus grands succès de la Cour d'honneur. Un truc, je crois qu'il y a eu Gérard Philippe, moi et je ne sais pas qui ont eu des... Non, mais c'est vrai, les amis, je regrette de vous le dire, j'ai un peu honte, mais c'est un peu vrai.
Ça venait après les Céphides en plus.
Ouais, voilà, ouais.
Après les contemporains.
Voilà, ouais.
À ce moment-là, t'as un succès fou.
Ah ben ouais.
Là, t'as fugue de tous les noms les plus...
Ah oui, non mais je suis... non, c'est vrai, ouais. Non, c'est qu'on va dire, mais oui, c'est un truc. Je sortais de la Cour d'honneur, j'avais 150 personnes qui m'attendaient à l'extérieur...
Et là, tu y arrives, t'arrêtes.
Et là,
t'es plus un acteur.
Mais j'arrête pas d'un coup. D'abord, le rôle, la pièce avec les camarades, on l'a beaucoup tourné, beaucoup joué. C'était 3h30 de spectacle. Et l'air de rien, tous les types qui ont joué ce rôle-là, quand ils l'ont joué un peu longtemps, tu termines, tu es asséché, épuisé, sans force. C'est comme si on t'avait enlevé toute ta substance, quoi. C'est comme un match de foot tous les jours, tu peux pas tenir, c'était infernal. Et j'étais épuisé, et puis là c'est le moment où la troupe du Centre Dramatique, avec Joël Avaudan, a décidé de partir à Villeurbanne avec Roger Planchon, qui était un des grands mecs du théâtre français, qui est mort il y a 4-5 mois. Et de là, Ben, je sais pas, j'ai senti que c'était un autre temps, un autre mouvement. J'ai dit à Jo, non, Jo, vous allez là-bas, mais je crois qu'une belle histoire comme la nôtre, elle est dans un endroit. Si on la met ailleurs, ça, j'ai peur que ça marche pas. Je crois que j'y crois pas trop. Alors je suis parti, je suis parti en Espagne. Au lieu de profiter de cette renommée ou notoriété qui avait déjà un peu, mais dans un collectif, qui là, tout d'un coup, a pris une dimension énorme. J'aurais pu, faire fructifier économiquement tout ça. Je suis parti en Espagne, j'ai fait autre chose.
Barcelone, des pavés, du soleil, des visages. Un été plein d'images et de fleurs. Barcelone, dans le port, un bateau qui s'amarre, le bourdon des guitares et mon cœur. J'ai revu cette rue sous le ciel de septembre. J'ai revu la fenêtre grillée de sa chambre. Jour trop court, le vent chaud caressait nos visages. Et l'amour nous jetait des étoiles au passage. Barcelone, souvenir de nos nuits haletantes, d'un été qui me hante. Barcelone.
Espagne, c'est vos origines?
Ouais, ouais, je suis espagnol, ouais. Même j'ai gardé la nationalité espagnole, je suis espagnol. Mes parents sont des réfugiés de la guerre d'Espagne, non, ils ne sont plus là, mais ça m'a toujours marqué. Quoi. Enfin, ouais, on est marqué par les gens ouais, qui ont vécu l'exil, c'est comme ça. C'est ni triste ni gay, c'est même plutôt gay. C'est plutôt gay parce que dans le sens, c'est vivant. C'est-à-dire un exilé, c'est quelqu'un qui est toujours sensible au mouvement des choses, au mouvement d'air. Et toujours, il sent que il voit les mouvements. Enfin, et disons, ça a été formidable pour moi. Quoi. Enfin, donc,
mais finalement, vous avez connu l'Espagne tardivement, peut-être?
Ouais, j'y allais un peu. Mais là, j'y suis allé. Et les gens m'ont appelé, quoi. Les gens espagnols. J'y allais auparavant.
Les Catalans d'abord.
Ouais, les Catalans ouais, m'ont fait venir. Tu veux pas monter une pièce, on aimerait bien que tu viennes.
Tu es de Barcelone hein?
Ma mère est juste à côté, ouais, de Manresa. Mon père est castillan. Et voilà, je suis parti, j'ai changé de vie totalement. J'ai recommencé à zéro. Parce que non, c'est vrai, c'est démarrage. C'était merveilleux. C'était peut-être la bonne époque d'aller en Espagne. C'était 80.
La
Movida. Ouais, la Movida, ouais. 88, 87, par là. C'est fantastique, vraiment.
Et ah, puis, t'as fait plein de choses. T'as monté plein de classiques, t'as fait des opéras.
J'ai fait tellement. Puis j'ai monté des auteurs contemporains là-bas. Mmh. J'ai monté.
En français, en catalan, en espagnol.
Ouais, Vázquez Montalbán, premier truc qu'il a fait avec moi. Eduardo Mendoza, la première pièce qu'il a fait avec moi. Javier Tomeo, il avait fait un truc avec Jacques Nicher. Ouais. Ça, celle-là, cette pièce, je l'ai fait à Madrid, à Barcelone en catalan et à l'Odéon en français avec Michel Aumont et Roland Blanche. Ouais. Non, j'ai fait comme ça, c'était un mouvement merveilleux de ne pas être enfermé au bout d'un moment dans le truc de l'acteur qui peut être. Qui m'a toujours un peu ennuyé, pour dire la vérité. Bon, je vois que je suis trop. Le monde des acteurs, il y a comme. Je sais, c'est presque injuste, mais aussi une manière de fonctionner. M'a toujours. M'en suis éloigné, quoi. J'ai toujours évité. Je les aime bien, mais il ne faut pas que ce soit trop longtemps. Ah. Il ne faut pas que ça dure.
Qui est Richard III?
C'est Ariel Garcia Valdés.
Et encore? C'est un comédien de la compagnie qui joue ce rôle, et le personnage lui-même a existé. Le personnage historique est un vrai roi d'Angleterre, et donc Shakespeare a écrit une pièce quelque temps, d'ailleurs 100 ans après les événements, si vous voulez.
Bonne ou mauvaise nouvelle que tu rentres si brusquement?
Mauvaise nouvelle, monseigneur. Ellie a fait rejoindre Richmond. Buckingham est en campagne et ses forces augmentent sans cesse.
Ellie joint à Richmond me chagrine plus que Buckingham et s'est levé à Tite. Rassemble des troupes. Mon bouclier sera mon conseiller.
Ça a peut-être un rapport avec... Quand vous évoquez la solitude aussi de la tournée, la solitude qui peut naître de ça, c'est que on parle toujours de la grande famille des acteurs.
Ouais.
Peut-être que c'est pas tout à fait cette famille-là que vous aviez envie d'épouser, quoi.
Ouais, mais par chance, moi j'ai vécu avec une grande famille. Non, c'est con à dire.
Parce que c'est des partisans.
Ouais. Qui après a fait le noyau du parce qu'on était théâtre partisans. Petite troupe qui essaye de monter des spectacles dans des conditions plutôt désastreuses, des conditions financières déplorables. On a toujours vécu, c'est la solitude des tournées, mais moi j'ai toujours vécu au fond dans un groupe assez extraordinaire de personnes, toutes différentes, sans jamais avoir les mêmes options esthétiques, les trucs avec des gens, l'un qui allait à la messe le dimanche, l'autre il joue au tiercé, au poker, voilà. Et ça a toujours été une espèce d'archipel d'individus très très différents. Ça qui était fabuleux au fond dans notre groupe, ça a toujours été ainsi. Ça qui est bien. Alors c'est un mélange bien sûr de solitude, mais quand même avec la chance d'avoir un parcours collectif. Parce que, de toute façon, quand tu es en province ou ailleurs, dans un théâtre, si tu ne fais pas collectivement, tu t'en sors pas, quoi. Donc, le collectif m'a toujours... ça m'intéresse si c'est collectif, ça m'intéresse si j'aide les autres, quoi. J'étais heureux d'être dans un groupe comme le nôtre pendant 20 ans avec Joe Lavaudant. Mais ça s'est fait aussi parce qu'il y avait un type qui, à chaque fois, remettait en jeu les gars, on a fait ça maintenant.
Il y a toujours cette famille.
Si
tu reprends le jeu d'acteur 20 ans plus tard, après l'avoir arrêté en 86, 87, c'est la famille.
Ouais.
C'est Georges Lavaudant qui te dit « Allez, viens ».
Ouais, voilà, c'est Joe. Si Joe me dit pas ça, j'y vais plus. Mais il a dû me convaincre 3 fois, quoi. Il a dû venir pour la rose et l'âge en question, là, qu'on n'avait pas fait depuis 25 ans et je n'avais pas joué depuis 20 ans. Il m'a dit, écoute, c'est un hommage à Carmelo Bene, tu sais qu'on l'aimait vachement, je fais ça à Paris. Il était, à l'époque, mais il n'y a pas longtemps, il y a 2004, il était directeur de l'Odéon. Et à l'Odéon, ils avaient fait un lieu, ils ont créé un lieu qui s'appelle Berthier, c'est-à-dire une deuxième salle.
Berthier,
voilà,
magnifique.
Qui est deux salles magnifiques. Et qui peuvent accepter des spectacles d'une autre esthétique, plus brute, qui rentre moins dans un théâtral italien. Elle dit, viens, écoute, voilà. Je dis, écoute, Joe, non, putain, revenir et tout. Ça va faire comme le toréador qui revient et on le revoit, il est nul à chier. Voilà, peine de le faire venir. Elle dit, bon Dieu, il aurait mieux fait de rester chez lui. Il a arrêté au bon moment. Hein? Mais j'ai dit non, là. Puis après, il est revenu à la charge un mois plus tard. Il dit, tu sais, on le fait à Paris, mais on fait aussi à Grenoble. Là où on l'avait. J'ai dit, bon, si on le fait à Grenoble, si je reprends là le fil où je l'ai laissé, alors peut-être qu'on peut y arriver, peut-être que les dieux du théâtre vont être avec nous.
Et ils étaient là ?
Non, ils étaient là, ouais. Ouais.
Et moi, je pleure, comme le veut le rite. Le corps du roi Henri. Pauvre et sans image d'un roi aussi froid qu'une clé. Oh, laisse-moi invoquer ton ombre, qu'elle écoute les pleurs de la malheureuse Anne, femme de ton Édouard, ton fils assassiné par la main même qui ouvrit sur ton corps ses blessures. Quel enfer a donc envoyé ce démon ? C'est pas ma
voyons donc, ma belle dame, vous ne connaissez pas les règles de la charité qui rend le bien pour le mal et les bénédictions pour les malédictions?
Scélérat, tu ne connais ni loi divine ni loi humaine. Il n'est pas de bête si féroce qu'elle ne connaisse quelque pitié.
Je n'en connais aucune, aucune. Et donc, je ne suis pas une bête.
C'est prodige que les démons ne montent pas.
C'est prodige quand les anges se courent. Oh, divine perfection de femme, daigne que je me disculpe de mes crimes aussi nombreux qu'imaginés.
Ou être tout pourri de gangrène, daigne que de toutes mes forces je puisse te maudire.
Oh, belle plus que langue humaine ne peut le dire, laisse-moi me faire absoudre de toi.
Non, tu n'as qu'une seule façon, pour toi.
Ah, ce serait un geste d'un trop grand désespoir, ce serait un geste qui m'accuserait.
Par ce désespoir, tu t'excuseras. En vengeant dignement sur toi-même tous ceux que tu as assassinés.
Et si je ne les avais pas assassinés?
Ils ne sont donc pas morts. Mais morts, ils le sont, et par ta main maudite.
Votre mari, ce n'est pas moi qui l'ai tué.
Et alors, il est vivant?
Non, il est mort. Mais par la main d'Edouard.
Tu mens! La reine Marguerite a vu ton poignard homicide tout fumant de son sang. Et elle aussi, tu l'aurais tué si tes femmes m'avaient arrêté.
Je fus provoqué par sa langue mauvaise.
N'as-tu pas tué ce roi?
Je te l'accorde, oui.
Ah, tu me l'accordes, porc épic. Que Dieu m'accorde aussi que tu sois damné pour cet horrible méfait. Comme il était doux, noble et vertueux.
Tant plus adapté au ciel qui le garde.
Il est au ciel, où jamais tu ne pourras le rejoindre.
Tu devrais donc m'en remercier, puisque je l'ai aidé à monter là-haut, lieu qui mieux que la terre lui convient.
Somme pour toi l'enfer.
Il en est un autre, si je puis le nommer.
Quelque cachot.
Chambre à coucher.
Mardi, miam miam.
Vu qu'on va passer au plat de résistance,
ouais.
C'est peut-être pas le plat de résistance dans votre vie, mais justement ce passage à la pédagogie, parce qu'aujourd'hui on vous connaît comme directeur.
Ouais.
L'école,
ouais.
Avec cette énergie de vouloir arrêter en permanence, c'est quand ouais. même un sacré pari d'aller vers l'idée de transmettre en permanence.
C'était parce que, en fait, presque tous les 10 ans, j'ai changé de vie. Enfin, on a eu 10 ans, on était une jeune troupe, après la mairie de Grenoble, là aussi c'est un truc incroyable, on avait 28 ans, la mairie de Grenoble nous a défendus pour qu'on soit au centre dramatique et qu'on soit directeur du centre dramatique. Maintenant, je voudrais bien savoir qui défendrait un mec que personne ne connaissait à l'époque. Hein. Personne n'était pas ni connu un peu comme sont connues les troupes. Il n'y avait rien, personne ne savait. Ouais, donc, on était là, une jeune troupe, après le centre dramatique, 10-11 ans, après l'Espagne, 10-11 ans, un peu, et après ici, 10 ans. Voilà, enfin,
ça fait 10 ans?
Ouais, 10 ans, ouais, je suis là. Ouais.
10 ans. Il va y avoir une autre étape.
Ouais, il y a une autre étape. Non, il y a une, peut-être une prochaine étape. Ouais, il faut pas ça. Le truc, il faut laisser la maison propre, faut que ce soit bien. Mais ouais, il y a peut-être bientôt une autre étape. Je sais pas, peut-être qu'elle sera complètement conne. Mais ma foi, ça sera pas plus mal. L'étape d'un mec complètement con, démuni, qui face au monde, qui va presque à sa perte, tu vois, regarde ça ou rigole et je sais pas, j'en sais rien. Donc j'ai pris l'école un peu pour ça, j'étais à mon fin de la sensation de l'Espagne, enfin, c'était bien, je pouvais continuer à y faire des choses, ils me demandent, mais je voulais changer, enfin, et c'est arrivé, c'est pas un désir de pédagogie. Quand je suis venu à Montpellier, j'ai vachement aimé parce que, en fait, c'était une école où il n'y avait pas de responsable pédagogique. Il n'y avait pas de directeur, pas de responsable pédagogique. Il n'y avait pas de structure autour qui pense l'enseignement. Je dis enfin un endroit où on peut faire quelque chose.
Mais il n'y avait rien à casser.
Il n'y avait rien à casser.
Est-ce qu'on ne vous demandait pas d'incarner toutes ces postures-là?
Si, certainement, mais je ne l'ai pas fait.
Tu avais réfléchi à ça comment? T'as pas de formation d'acteur, Ariel? T'as pas fait d'école?
J'ai aucune formation d'acteur, j'ai pas fait d'école. Toute la formation qu'on a avec notre... C'est d'autodidacte, ouais. Ouais, totalement. Mais c'est plus presque une formation d'acteur ou de mec de théâtre, mais qui est plus influencé par la peinture, la littérature, la musique que par le théâtre lui-même. C'est ça qui nous a, Miles Davis, Archie Shepp, Rolling Stone, je sais pas, Frank Zappa, Elvis, Jean-Luc Godard, Carmelo Bene, Robert Bresson, je sais pas, tu vois, Jacques Rivette, L'Amour Fou, je sais pas, Fellini, Bergman, Le Clésio, Rob Grillet, Claude Simon, les romans américains, La Beat Generation, voilà, enfin.
Says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes.
Ben alors là, dis donc.
C'est très très beau là.
Puis c'est esthétiquement parfait, hein? C'est vrai, hein?
Alors là, c'est graphiquement très réussi.
Ah ouais.
C'est très visuel.
Ah ouais,
il n'y a pas beaucoup de goût dans les assiettes, on préfère que ce soit beau. Tu as fait donc du barbé qui est grillé, une émulsion à l'anis verte, un fenouil confit et vous avez des légumes qui sont servis avec une émulsion au thym. Voilà,
super. Merci.
Merci beaucoup.
Oh là là, dis donc, c'est superbe. C'est vrai, hein? Non, c'est pas pour dire parce qu'on est là dans une. C'est vraiment. Hein, c'est
très beau.
Mmh. Et puis en plus, c'est un lundi.
C'est un lundi, on mange bien.
Alors c'est un cadeau même de la vie. Tout d'un coup, la vie, hein, elle donne un coup de rein. Là. En général, ce lundi où tu as les reins qui s'appellent.
On est autodidacte de tout, qu'on n'a jamais eu de formation et qu'on se retrouve directeur d'une école et d'une formation réputée. C'est quoi les critères finalement quand vous voyez les nouveaux, les auditions et que vous dites, bon, à un moment donné, est-ce que je vais vers celui qui est vraiment atypique et qui semble être celui qui a marché seul ou vers celui qui a été quand même un bon élève et...
Non, ça peut être tout. Ça peut être un mec qui était un bon élève qui a le truc et ça peut être un mec atypique qui a le... Enfin, le geste, quoi, tu vois, l'éclair. L'un n'empêche pas l'autre. Non, il n'y a pas de règle.
Mais c'est un moment dur quand même. Hein. J'ai des souvenirs de toi pendant cette période de recrutement. Là.
Ah ouais,
t'es toujours un peu tendu.
Ah ouais, tendu. Mais tendu contre moi-même.
Oui.
Ouais, parce que tendu. Là, on vous demande d'incarner la posture du directeur.
Ouais, voilà.
Il y en a peu en même temps. Hein. Dans chaque promotion, il y en a 12.
12, ouais, 12, 14, là, cette fois, il y en a 14, ouais. Ouais,
c'est pas beaucoup.
Ouais, mais c'est dans toutes les écoles, c'est comme ça. Dans toutes les écoles de France, il y a des promotions, des groupes qui font 3 ans de 12, 14. À part à Paris, ils sont 30. 30 divisés en 2, quoi. Après, ils sont 15, 15, ouais.
Combien t'as de dossiers chaque
300.
Année
300. Ouais, ouais, 300, ouais.
Ouais. On est sûr de se tromper dans ces cas-là?
Ouais, tout le monde se trompe, moi aussi. Dire que moi je me trompe pas, ça serait une catastrophe. Je me trompe comme tout le monde. Le pire, c'est de ne pas le reconnaître, quoi. Tu vois, mais je me trompe, hein, vraiment. Ouais, ouais. Et on se trompe des fois tous ensemble. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que je navigue, que je flotte là-dedans. Que c'est comme, même là-dedans, c'est comme des chemins de traverse. C'est jamais le discours qui dit, ben oui, moi, les gens sont choisis sur un critère tel. Sur tel critère, il y a un truc. Alors, ça peut paraître un espèce de louvoiement un peu hasardeux, mais je ne sais pas faire autrement, quoi. Puis, je sais pas, les sensations, je ne saurais pas dire pourquoi. Mais ce n'est pas moi qui décide, mais quand même un jury. Ah non, mais c'est vrai, il ne faut pas non plus oublier. Je ne suis pas seul à décider du truc. Hein,
ouais. Est-ce que des anciens élèves font partie du jury?
Même la base de tous les élèves sont des anciens du jeu de l'école. Ils sont tous entre 33, 35, 36, 37 ans. Alors ça ennuie un peu les gens de génération supérieure qui disent « Bon Dieu, mais tu fais des jurys avec des gens, ils n'ont quand même pas la maturité pour décider. » C'est comme un fil que je tiens. Les gens sont sortis, ils font des choses, plus ou moins bien, des choses même très bien, certains, vraiment très très bien. Non, mais des fois, même les gens d'ici, je sais pas, ils ne se rendent pas compte, quoi. Marion Aubert, pour les gens qui ne savent pas, c'est qui écrit des pièces de théâtre qui ont un écho national. Après, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, elle a une vraie écriture, un truc à elle. Puis Marion Guerrero, qui est metteuse en scène, comédienne, et qui font un duo là, avec d'autres gens
Capucine du Castel.
Ouais, Capucine. Qui ont fait cette chose incroyable les histrions.
Quoi. Mais les histrions, tournée nationale énorme, Richard Mitou à la mise en scène, ouais. Le théâtre du Rond-Point.
Théâtre de la Colline. Festival d'automne.
Exactement.
Festival d'automne, pour les gens, les auditeurs, c'est vraiment un des festivals pour le monde du théâtre et du spectacle. Tu rentres pas comme ça. Hein. Quand ils te choisissent, c'est pas... Toutes les grandes salles des théâtres de France, tous les gens sont presque tous issus de l'école, à part 3-4, et les musiciens.
Là, vous y voyez le type d'aventure que vous aviez vécu. Vécu.
L'audace, le culot, la manière de... Ouais, d'envoyer péter, quoi. Après, bon, tout le monde, ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai des tas d'amis qui n'ont pas aimé. Mais des fois, je peux les comprendre, ça ne me gêne pas du tout. Mais le geste, la manière, ça, quand même, c'est quand même inouï. C'est tellement beau, une aventure de 20 personnes sur le plateau, enfin, c'est peut-être telle dimension. Ce qui m'ennuie un peu, sincèrement, mais légèrement, je ne veux pas rentrer dans... C'est que c'est perçu, bon, comme un truc normal, comme un truc, ouais, bon, ben voilà, puis allez, hop, ça passe à... C'est con à dire, et c'est peut-être là la faiblesse de Montpellier, un truc comme ça à Grenoble, il le laisserait pas passer comme ça. Il regarderait à deux fois.
Tu veux dire qu'il les accompagnerait?
Parce que, par exemple, moi, je mettrais au Centre Dramatique quelqu'un qui est issu de tout ça. Comme les mecs, comme Dubedou, le maire de Grenoble, avec son, nous a défendu... Voilà, mais artistiquement, je veux dire, voilà.
Justement, quand aujourd'hui, là, on va sur un terrain un peu plus politique, un nom a été prononcé plusieurs fois dans votre bouche, c'est celui de Jo Lavaudant. Et aujourd'hui, c'est un nom qui a été aussi... évoqué à maintes reprises pour la reprise du Centre Dramatique National de Montpellier des 13 vents. Comment vous vous positionnez face à tout ça?
Je ne saurais pas quoi dire. D'abord, Jo, c'est mon copain d'enfance. Non, c'est vrai. Hein, mais ça ne veut pas dire, quand on a un copain d'enfance, j'espère être son plus grand ennemi. Et lui, envers moi. C'est-à-dire, plus grand ennemi direct. Si j'ai un truc à lui dire, je lui dis direct. Son vrai ennemi. Dans le bon sens du terme, hein, dans le sens où je lui dis un truc, je lui dis quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc, ouais, on ne dit rien pour. D'un côté, je lui dis, tiens, il redonnerait un truc ici, tu vois, il remotive, il redonnerait, je sais pas, au théâtre peut-être une poussée un peu pas médiatique, un truc, une assise un peu plus grande nationalement, mais il faudrait qu'il prenne un jeune mec avec lui. Et de l'autre côté,
c'est ce qu'il en était question avec Richard Mitte ou
ouais, je sais pas trop, mais ça c'est plutôt des pour les gens, Richard Mitte, c'est aussi le metteur en scène des Histrions, c'est un superbe acteur. Là, il joue dans Les Précieuses Ridicules, un autre groupe issu de l'école, ça s'appelle La Chèvre à cinq pattes. C'est un type collectif, assez dingo, mais un vrai mec de plateau, très rare au fond. Un type, c'est un vrai mec de théâtre. Mais moi, personnellement, et Dieu sait si j'aime Joe, j'aurais mis un mec du coin. J'aurais, maintenant, ils y sont. Il y a Machine Théâtre, il y a je sais pas qui, j'aurais osé mettre, tu vois. J'aurais fait le geste.
Il y avait Julien Bouffier,
Ouais, j'aurais mis un mec du coin, j'aurais osé. J'aurais, voilà. Mais bon, après, ben, vous avez vu, c'est un truc aussi, c'est des décisions entre l'État et l'agglomération, parce que c'est elle qui... Mais voilà ce que j'aurais fait. Moi, j'aurais défendu un truc comme ça. C'était le moment de prouver que d'ici surgissaient
des hommes de théâtre, des gens de théâtre.
Ouais.
Ce qui est très beau, c'est que vous faites l'aveu de... Là, vous suivez plus votre aventure au sein de l'école qu'une aventure intime liée à une amitié de toujours. Parce que en disant ça, c'est... En mettant quelqu'un... Ouais. Du coin, c'est forcément quelqu'un qui est aussi un petit peu passé dans vos mains et qui montrerait que ces aventures-là se sont créées aussi à Montpellier.
Il y a une vraie reconnaissance de la profession théâtrale. T'as eu Molière pour le conservatoire, c'est un prix spécial.
Non, c'est-à-dire le Molière, c'est en fait, c'est Gabriel Monet. Mmh. Gabi, lui, il a eu le Molière d'honneur. Ça l'emmerdait de le garder, il dit « Coach, je le passe à l'école, mais comme un relais, quoi. Enfin, »
D'accord.
Tu vois, voilà. Mais en fait, le Molière d'honneur, c'est le seul Molière qui vaille la peine. Oui. Moi, j'ai le prix Gérard Philippe, les trucs comme ça, mais bon.
T'as le prix Gérard Philippe, t'as... Ouais. À Avignon, il y a un endroit où il y a une peinture, où on
une
voit...
Une peinture, je suis peint à Avignon. Il y a Jean Villard, parce que, tu sais, on peint les... Il y a Jean Villard à côté, mais il y a Jean Villard en bas, je suis à côté de Jean Villard.
Et en haut ?
En haut, il y a Terzien, Peter Brook, puis alors après, tu vois, ça... Ouais.
Là, quand on écoute justement votre rapport, enfin une forme d'humilité qui transparaît de façon évidente, et un refus finalement d'une starification,
ah ouais,
comment on partage le plateau avec par exemple une personne comme Isabelle Huppert?
Les gens du cinéma sont habitués à, quand on leur donne tout sur un plateau, on va les chercher chez eux en bagnole, on les amène, on les fait manger, on les met dans les hôtels 5 étoiles. Et ils vivent dans ce monde-là un peu illusoire, mais qui doit être terrible en même temps. Ça peut être si joyeux que ça.
Mais là, la solitude dont on parlait, elle doit être...
Elle est là.
Énorme.
La solitude est là. Mais quand j'ai accepté de faire un truc avec Bob Wilson, je savais que Bob Wilson, c'est un théâtre formel, mais pas formel facile. Hein. Pas pour les gens qui ne connaissent pas Bob Wilson, c'est un des grands metteurs en scène mondiaux qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On n'y échappera pas, c'est un mec qui aura marqué l'époque, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Mais.
Avec une vraie radicalité.
Il y a un vrai truc de lui qu'on répète avec lui. Il y a un endroit irréductible de lui où il lâche rien. Hein. Il est comme un chien. Hein.
Ah ouais, c'est merveilleux. On se dit, tiens, non, il va faire encore.
Il est très âgé aussi, non?
Oh, 65, ouais.
Mince, non.
Mais par exemple, mais il picole.
Comme un
des
jeune.
Des fois, il dirige un peu bourré, même. Mais ça se voit pas parce que il a ce côté un peu mormon, là.
Et si nous nous entretenons, Marion, Balmont, pour en finir, avant que vous soyez tout à fait infecte.
Je suis au regret de devoir vous dire que j'ai déjà consommé, Marquise. La présidente est tombée.
L'épouse éternelle.
Madame de Tourvel.
Vous êtes une putain, Valmont.
J'attends ma punition, ma reine.
Mon amour pour la putain n'a-t-il pas mérité un châtiment?
Je suis une ordure. Je veux manger vos excréments.
Ordure pour ordure. Je veux que vous me crachiez.
Je veux que vous lâchiez votre eau sur moi.
Mais comment vous vous êtes retrouvé dans cette histoire?
Bah c'est parce que j'avais fait les deux trucs à l'Odéon. J'ai fait ça parce
Hamlet
que...
un songe et
non, parce qu'elle est venue me voir jouer.
Isabelle Huppert.
Ouais, ouais.
Dans Hamlet un songe.
Dans
La Rose et l'âge.
La Rose et l'âge. Elle est venue deux fois.
Voilà. Oui, elle te voulait.
Bah, non seulement elle me voulait. Non, mais après, pour la petite vanité, un jour... J'allais la voir dans un truc, mais c'était pas terrible. Elle faisait un Hedda Gabler avec. Ouais. Et. Alors je l'ai rencontré à la sortie. Je dis bon, ouais, c'était pas terrible. C'est la cascade qu'il avait fait, qui des fois sort des trucs vachement bien, mais là. Mais je crois que c'était à cause d'elle. C'est un metteur en scène d'un théâtre collectif, et ça veut pas marcher avec elle. Puis il faut là de la liaison entre les acteurs, donc ça pouvait pas le faire. Alors en sortie, bon, je discute ça. Alors je devais le faire. Alors comme ça, elle m'a dit, mais c'est vrai, et je crois qu'elle doit le penser, elle m'a dit, vous êtes le meilleur acteur du monde. Ah ouais, non, je plaisante pas. Non, non. Ouais. Mais je lui dis, moi, vous savez, je sais faire que ça. Moi, je sais faire que Isabelle Huppert, c'est... Des fois, je suis triste pour elle. Sérieux, parce que il lui faut un chauffeur. Même si elle habite à 500 mètres du théâtre, c'est complètement absurde. Souvent, elle est partie à pied presque deux fois sur trois du théâtre à pied pour aller chez elle. Le pauvre chauffeur était en train d'attendre dehors. Il se demandait ce qui se passait. On envoyait quelqu'un pour lui dire « Elle est partie depuis un moment, tu peux rentrer chez toi. » Uniquement parce que s'ils ont plus ça, ils ont l'impression qu'ils n'existent plus, qu'ils sont perdus. Il faut qu'elle rentre avec une costumière qui la suit tout le temps. Elle ne peut jamais arriver toute seule dans un lieu. Il faut qu'elle toujours qu'il y ait un accompagnateur, un truc. Et c'est tout ça qui est pas étrange, mais qui est tellement absurde au fond. Mais à part ça, elle est vachement intelligente, elle est dans le boulot merveilleuse parce qu'elle bosse, elle se plaint jamais. Elle peut attendre 3 heures sur le plateau s'il faut pour faire une lumière parce que l'autre
c'est ça. Ça c'est le rapport au cinéma, j'imagine, où on peut attendre 3 heures
ouais,
pour peut-être. Faire 10 secondes.
Ouais, voilà. Ouais, c'est peut-être le rapport au cinéma.
Toi, t'as jamais fait de cinéma ?
Non, jamais, moi. Je suis incapable de me lever. Quand on m'a dit, faut vous lever à 6h du matin pour aller, vous gagnez vachement d'argent. Ah non, mais j'y vais pas. Prenez quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas. L'argent, c'est pas mon truc.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine un grand format, voilà comment mon film commence. Souriant je m'avance vers toi, 4,80. Des biceps plein les manches, je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Dans ces périodes-là, quand on joue 3 mois, votre identité quand même de directeur d'école s'efface totalement ou...
Je la suis le matin, et puis des fois je me dis l'école, non mais c'est con à dire, mais j'en ai rien à taper quoi, ils ont qu'à se démerder.
Ils se débrouillent tout seuls.
Ouais, mon Dieu, ils ont qu'à la faire tourner l'école quoi, il n'y a pas non plus besoin de moi pour la
comme
faire.
Vous l'auriez fait tourner à 28 ans justement.
Ben ouais, exactement, et ils la font tourner les gamins. Des fois, c'est affreux, ces écoles, parce qu'il y a tellement de trucs, de mecs qui viennent. Serge Merlin, ça. Là, pareil, je dis un nom. La plupart des gens ne le connaissent pas, mais je peux leur dire, c'est le plus grand acteur français de théâtre. Et les autres, ils peuvent s'accrocher derrière. Hein. Mais alors, tu dis Serge Merlin, alors les, tu vois, les gens vont dire, bon, qui c'est celui-là? Ils l'ont vu dans le truc Amélie Poulain, il joue je sais pas quoi, j'ai pas vu le film. Un acteur, mais... Ouais.
Et c'est vrai que toute cette bande que tu recrutes autour du conservatoire, ils sont un peu tous pareils, André Vim, Serge Merlin, c'est des gens qu'on connaît pas.
Ouais, Serge Merlin, et puis après il y a les jeunes mecs, Bruno Gélin, Vincent Macaigne qui a fait un idiot de Dostoïevski. Lui, il détruit les théâtres, lui. Il a fait un spectacle idiot, mais ça fait un tabac monstrueux. Mais alors, il te détruit les trucs, mais c'est génial comme il fait. C'est fabuleux. Et tous les acteurs sont épuisés, c'est des copains, mais ils n'en peuvent plus. Quoi. Ils lui disent, écoute, casse-toi, reviens dans 3 jours, ne nous emmerde plus. Mais c'est un type fabuleux. Quoi. Bruno Gélin, qui a fait il fait toute une saison là, au Théâtre de Nîmes. Là. Des types qui ont 35 ans, qui sont extraordinaires. Alors, je fais sur 2 générations. Et puis la génération 35... Même Richard Mitou, les mecs du coin, Marion Guerrero.
En même temps, il n'y a pas que de l'enseignement au conservatoire. Tu es aussi coproducteur de tout un tas de spectacles.
Je suis, ouais, coproducteur de tas de spectacles qui n'auraient pas pu se faire.
Personne ne le sait.
Parce que j'ai mis en place une aide à ce qu'on appelle l'insertion des acteurs. Ce qui fait que quand ils sortent, je peux les aider à rentrer dans des troupes de manière individuelle pour aider des projets ou de manière collective quand il y a des troupes issues de l'école, comme Machine Théâtre, là, qui a fait un Henri VI, tu vois, ils l'ont fait ici, ils l'ont fait là à Alès, ils sont en résidence à Alès. Et les gens, des fois, les institutions les prennent de haut. Ils disent, ouais, les gars, c'est bien, mais avec une petite condescendance. Ouais, ouais, c'est bien. Tous ces spectacles, je les ai aidés sur deux, trois, parce que des spectacles à 14 acteurs, des productions énormes. Et donc, c'est moi qui donne qui aide sur 2-3 acteurs, qui finance 2-3 acteurs qui sont pris dans l'école, donc j'insère dedans et qui aide à la production. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit eux qui soient devant. Enfin, je veux pas être devant, je veux pas leur dire regardez, je vous ai aidé. Je veux que ce soit eux qui soient devant. C'est les jeunes générations, enfin, c'est à eux à être devant. Moi, j'ai juste à aider et puis même à être plus discret possible.
T'as une vraie liberté au conservatoire ?
L'aglo me laisse une vraie liberté. Totale. Ça, c'est inouï.
Est-ce que, comme peuvent le dire des Montanari, des René Coeuring, des Jean-Claude Fall aussi, est-ce que c'est une rencontre à un moment donné avec Georges Frêche qui crée cette liberté? Parce qu'ils peuvent le dire.
Je veux dire, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. Voilà. Mais quand même, c'est un type qui a une vision. On le sait, hein, on lit dans les journaux, mais c'est vrai. C'est un des rares politiques qui a vraiment une vision. Alors des fois, il est ennuyeux, emmerdant. Des fois, on a envie de lui cracher à la gueule. Il dit, attends, tu nous fais chier, quoi, ta manière. Mais il y a toujours un moment, tu regardes, il a l'œil, quoi, le regard. La rue L'Allemand, le truc, c'est fait parce qu'il a dit oui.
Pourquoi? La rue L'Allemand, c'est l'endroit où il y a le conservatoire.
Ouais, c'est un lieu unique
l'ancien
en France.
Prêt gratuit,
l'ancien, ouais, voilà. C'est un lieu destiné à l'art dramatique, totalement, où on fait des tas de spectacles qui sont joués là, de plein de gens. Des fois, on peut faire 10 000 personnes par saison. Ouais.
C'est énorme. Énormément de spectacles.
Ah, ouais.
Il y a énormément pour la plupart.
Des spectacles gratuits. Bon, il n'y a aucun mérite, c'est gratuit. Mais attends, il faut les faire, il faut que les gens viennent, et puis ça ouvre un public plus large, on joue sur des séries longues. Mais ce truc s'est fait parce que c'est lui, à un moment il aurait pu dire non, mais lui a dit oui, ouais, ok, on va le faire. Et ça va vite derrière, hein. Je veux dire que ça va très vite. Et ça c'est inouï, ça n'a pas de prix, quoi. Et pourquoi il dit oui, il ne me connaît pas plus que, c'est juste deux fois on s'est vu.
Qu'est-ce qu'il savait de toi?
Rien, deux, trois trucs, c'est deux, trois regards. C'est rien, c'est la demi-seconde que ça se joue. Et le mec dit oui. Il te dit pas oui tout de suite, il dit « Dans 15 jours, je vous donne une réponse. » Et dans 15 jours, il te donne la réponse, il dit « Vous aurez ce bâtiment-là. »
Et du coup, à l'intérieur, une liberté totale.
Totale. Le seul problème maintenant, c'est que ces écoles doivent être diplômantes, etc. Donc, il faut se lier à l'université. Il faut rentrer dans le truc de les accords de Bologne, pour les gens de la radio, et que ces accords de Bologne, c'est que l'uniformisation des diplômes au niveau de l'Europe. Donc il faut que les écoles supérieures aient licence, master, je sais pas quoi. Donc on essaye de faire une chose qui ne détruit pas l'esprit de l'école dans sa vitesse, dans sa folie, dans ses erreurs, dans sa connerie, dans son truc génial. Parce que l'école, c'est con aussi. Et tant mieux, c'est pas toujours bien, c'est nul des fois. Et alors, ça qui est merveilleux, c'est des erreurs qu'on apprend.
Oui, si on n'a pas droit à l'erreur quand on est à l'école.
Il vaut mieux arrêter, quoi. Hein?
Est-ce que vous qui ne venez pas justement d'une école...
Moi, j'ai aucun diplôme, j'ai même pas le certificat d'études.
Est-ce que vous êtes marqué par la posture du maître ignorant?
Oui, c'est un peu ce que dit Deleuze. On enseigne bien que ce que l'on ignore, en fait.
Et toi, tu dis, je ne forme pas, je cherche surtout à ne pas déformer.
Je cherche surtout à ne pas déformer les gens, exactement. Je cherche surtout à ne pas déformer. À garder les gens dans ce qu'ils ont de plus brut et leur donner des repères, des visions, mais que là-dedans, ils puissent...
Parce que je me suis renseigné un petit peu aujourd'hui avec des anciens du conservatoire en disant comment c'est quand Ariel prend les manettes et donne des cours. Il parle beaucoup de respiration et beaucoup du dos.
Du dos.
Le dos.
Ah ouais. C'est un truc con. J'ai appris en 2 secondes. Quand on marche, on avance, mais quand on avance, on quitte un truc derrière. Et le truc derrière est aussi important que la partie devant. C'est con, hein. Mais si tous les gens faisaient ça, ils verraient que le monde est beaucoup plus vaste autour d'eux et qu'eux sont au milieu de ce monde-là.
Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. Sometimes. Mm-hmm.
change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
Pour recontextualiser, on passe au dessert.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et on laisse une telle confiance au pastis et à Lionel qu'on se retrouve avec trois desserts différents. Et c'est Lionel, comme ça, qui nous fait la surprise.
Desserts différents, donc il y en a un, c'est un pain perdu brioché, tout simple, avec une salade d'ananas à la vanille. Là, ce sont des figues rôties avec un biscuit maison et une glace au miel de sapin. Et là, c'est une poire qui est pochée dans un sirop aux herbes et servie avec une glace à la lavande.
C'est beau, ça s'appelle le pain perdu. Hein? C'est magnifique, hein? Mais c'est vrai, c'est con à dire. Mais quand même, quand on voit ces trois plats, quoi, c'est...
Tu vas dans les grands restaurants, toi ?
Ouais, j'y vais, ouais.
T'aimes ça ? La gastro, le...
Hein? Ouais, ouais, j'ai toujours aimé ça, ouais, ouais. Mais en même temps, je peux aimer ça, mais pas tout le temps, enfin, comme tout le monde, au fond. Après, il faut que je mange très, très simple, très bien, quoi. Enfin, ouais.
C'est quoi tes plus grands souvenirs?
Mais je veux pas être dans une obsession de ça, tu vois, espèce d'obsession de... Et ça, j'aime bien des fois chez Gaby Monet, c'est toujours une idée de la nourriture la plus populaire, mais la plus aristocratique en même temps. Il a une connaissance de la nourriture, mais c'est effrayant, Gaby.
Un truc c'est... très catalan, ça, hein, le populaire c'est... aristocratique.
C'est catalan, maintenant. C'est la nourriture catalane. Si les gens ici passent la frontière, ils vont manger à Gironde. Ils vont manger des choses extrêmement simples, mais alors d'une saveur, d'un goût catalan. Mais c'est inouï, hein, c'est vrai. Hein.
La nourriture, c'est un vrai héritage. Hein.
Un truc qu'on
reçoit tout petit.
Ouais, puis là, plus que jamais, mais ouais, il y a la nourriture de moi, de ma mère qui était catalane, je mangeais catalan. Quoi. Mais après, il y a toute cette culture quand même quand tu manges, mais c'est inouï quoi, enfin, c'est vrai, hein, moi je suis abasourdi par... Mais quand tu regardes les trois plats qu'on a, vraiment il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, hein. Moi j'ai une espèce de poire là, mais qui est vachement belle, qui est même très très verte, je sais pas comment se
dire. Oui, hein? On dirait qu'elle n'est pas du tout mûre et en fait...
Ouais.
J'imagine que... Mais savoureux.
Moi, je suis surpris de ce restaurant. Je ne savais pas que c'était aussi... À ce degré-là de... Je vais y revenir. Non, mais ce n'est pas pour dire aux gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter, mais vraiment, c'est vrai.
Mardi.
Miam, miam.
Est-ce qu'en tournée, vous retrouvez justement toujours ce rapport, le repas, la bouffe, c'est ouais. L'après-spectacle, ouais, donc toujours. C'est le recueillement.
Et tu sais, c'est comme Mastroianni, il disait, mais à quoi vous pensez quand vous jouez la pièce, votre pièce? Il disait, mais je ne pense pas quand je joue la pièce. Quand je joue la pièce, je pense surtout à après quand on va aller manger avec les amis. Mais c'est vrai, il a raison. Et moi, je vais te dire un truc, quand je fais le truc de... Le spectacle de Bob Wilson, tu sais, Bob Wilson, c'est les mains comme ça, tu regardes la main comme si c'était un miroir, ben, entre autres choses, pas non plus simplifié pour les gens. Mais des fois, comme c'est tellement
pseudo-formel, parce que ça ne l'est pas, parce qu'il faut nourrir tout ça. Mais des fois, je fais ça, je regarde la main, je dis, mon Dieu, mais où est-ce qu'on va bouffer ce soir avec les copains? Mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Mais oui. Mais tu dis ça, les gens te disent, mais toi, t'es un pauvre con qui fait du théâtre, pourquoi? Mais s'il n'y a pas ça, mon Dieu, s'il n'y a pas cette digression, cet endroit, ça n'a pas... C'est pas qu'on le fait pas bien, ce geste. On le fait peut-être mille fois mieux quand tu le fais avec ça. Parce que, je sais pas, t'as l'appétit, le bonheur, le goût, le truc. Tu dis, tiens, après, là, on va le... Voilà. Ça veut pas dire que c'est vide. Mais c'est, des fois, c'est ça, le théâtre. C'est... Ouais.
Pour toi, ça reste une aventure indéfectiblement collective.
Et individuelle.
Et individuel.
Ouais, il y a comme un truc.
Oui, oui, ce rapport.
Un monde personnel, mais collectif avant tout. Sans collectif, tu peux pas le faire. Les grandes aventures du théâtre, tu prends Jean Villard, tous les mecs, Gérard Philippe, Philippe Noiret, Daniel Sorano, Maria Casa, tu prends tout. Ils ont vécu ça, tu leur enlèves ça, tu les ferais venir sur Terre au jour d'aujourd'hui, on vous enlève ça, je suis sûr qu'ils diraient non, non, écoute, ça tu nous le laisses, tu peux enlever le reste un petit peu, mais ça, c'est peut-être le plus beau qu'on ait vécu. Et tu prends Ariane Mouchkine, Jean-Pierre Vincent avec Strasbourg, Philippe Clévenot, je dis un nom, Philippe Clévenot. Après Serge Merlin, le plus grand acteur français, personne ne le connaît. Même j'ai dit à Georges Geoffrey, j'aimerais appeler la salle, une salle Philippe Clévenot. Elle dit, on ne connaît pas lui. Oui. Bon. Et si on mettait la salle le nom de Rému? Mais en même temps, j'aime bien Rému. Je trouve ça génial, Rému. Il est extraordinaire. Tu n'as pas lutté, tu dis, il est bien. Alors on a mis Rému. Je regrette qu'on n'ait pas mis Philippe. Mais en même temps, j'aime bien que ce soit, ça s'appelle la salle Rému. Mais Philippe Clévenot. Mais les gens, ils savent même pas qui c'est. Tu vois? Mais c'est le théâtre, c'est comme ça. Mais c'est ça qui est beau, c'est les acteurs merveilleux.
Ça vous fait encore rêver, le théâtre?
Ouais, toujours. Ouais. Même si ça me fait pas rêver, ça me fait rêver. Ça me fait rêver pour moi. Ouais. Et puis, il y a toujours un endroit où ça fait rêver, ouais. Il y a plein de gens comme ça, extraordinaires. Ils peuvent se planter le lendemain, et alors? C'est ça, le théâtre, putain. L'art, c'est pour se planter. Vous voulez pas toujours que ce soit bon, les gars. Putain, acceptez que ce soit... Quand les gens se gourent, quoi. Vous gourrez pas, vous, dans la vie? Ben alors, merde. L'erreur, c'est ce qu'il y a de plus beau. Sans erreur, t'avances pas, quoi.
Mardi, miam, miam. Mardi, miam, miam.
Est-ce que vous avez un plus beau souvenir de scène, du théâtre?
Non, quand même, le plus beau... C'est la cour d'honneur d'Avignon, quand même. Non,
avec Richard III?
Ouais, non, sérieux. D'abord, j'étais surpris, je savais pas que ça faisait une chose comme ça. Ben, c'est 20 minutes d'applaudissements. Hein. Mm. C'est 20 minutes montre en main.
20 minutes
sur Richard III, boîte,
c'est pas vrai.
Ouais, 20 minutes. Il n'y a que Gérard Philippe qui a eu.
Non, c'est Croisier.
Que Gérard Philippe et moi. Non, mais c'est, je m'en fous, je préfère. Mais c'est colossal, tu t'y attends pas.
En même temps, c'est fou, c'est un Richard III. Allez, on en parle. C'est un Richard III bouffon, boiteux.
Ouais, marrant, comique, détruit.
Et en même temps, c'est une œuvre un peu bouffonne aussi de Shakespeare. Ça.
Non, mais elle l'avait jamais été jusqu'à présent. Ça m'est venu, tu sais comment ça m'est venu, ça? C'est toujours des souvenirs d'enfance. J'avais fait un petit stage de théâtre avec Joe. Il y avait Dussolier, il y avait un mec comme ça, André. Et André était avec nous, il y avait Jean-François Derec, le mec, ouais, il y avait des tas de mecs. Et puis dans ce stage, dans un petit stage, il y avait un type qui avait une jambe en bois. Tu vois, une jambe, ouais, en bois, il était unijambiste. Et la nuit, on dormait dans un dortoir, et alors au lieu de souffrir ça, de l'intérioriser, d'en être victime, de l'inhiber, c'était l'envers. Il allait à l'extérieur, il disait « Regardez les gars la nuit, regardez les gars. » Alors il se mettait dans son lit, et avec sa jambe de bois, il tapait dans tous les sens. Non, mais c'était extraordinaire. Ben, je te jure, que j'ai pensé à ça quand j'ai fait ça. J'ai dit, c'est un mec qui est qui claudique, qui a une bosse, qui est tordue. Qui est... Et de ça, il en fait une séduction. Et le mec, avec sa jambe de bois, je te jure, il avait une séduction, mais tu le regardais dans la nuit, dans le dortoir, mais putain, mais c'était un dieu, quoi. Il te prenait la jambe, il te faisait des trucs. Et j'ai pensé à ça, j'ai dit à Joe, puis c'est comme le mec, tu te rappelles dans la nuit, qui nous faisait. C'est ça, tu vois. Et j'ai pris à l'envers. Au lieu d'en faire un mec qui boite, c'est un mec qui danse sa claudication, qui s'en sert, qui la danse, qui la.
Un grand séducteur, Ariane, mais t'es pas Valmont.
Non, moi j'ai pas l'ancien.
Un grand séducteur, tiens, un nouveau pan de conversation s'ouvre à nous.
Non, mais j'étais avant, maintenant, non, c'est fini. J'étais infernal. Je vivais dans les cafés ou je vivais dans. À Grenoble, par exemple, c'est pour dire, mais c'était bête en même temps. Mais il faut être bête un peu dans la vie. Si on n'est pas un peu bête, ta vie n'a pas d'intérêt. Mais pas tout le temps bête, mais un peu, quoi. Par exemple, ouais, j'avais des tas d'aventures, c'était infernal. Mais en même temps, il n'y a pas de quoi s'enfronter. C'est vrai, je dis pas ça pour toutes les. Mais tu vois que les femmes ne sentent pas que c'est un truc contre elles, ou je sais pas, c'est comme ça, c'est la vie, ça a passé comme ça. Et alors à Grenoble, qui était une petite ville, alors j'avais une telle réputation que tous les types me disaient, mais donc il paraît que tu es sorti avec elle. Alors j'en avais marre de dire non, mais non, je ne suis pas sorti avec elle. Alors je disais oui. Je disais, ah ouais, comment elle est? Oh, tu ne peux pas savoir. Elle est vraiment bien, c'était pas vrai, je n'étais pas sorti. Alors, tu vois, mais pour pas dire non, parce que je dis merde, pourquoi je dois dire non? J'ai qu'à dire oui, quoi. Voilà. Alors je disais oui, et puis je vivais dans les cafés ou au théâtre ou dans la montagne. C'était un peu les trois endroits où je vivais. Et alors les filles en question, j'étais toujours dans un café, on pouvait très vite me retrouver. Elles l'apprenaient très très vite. Alors elles venaient dans les cafés, elles me foutaient un scandale dans le café. Mais comment tu te permets de dire ça? Tu vois, comment tu te permets? De quel droit tu te permets? Mais devant tout le monde. Et alors je disais, tiens. Là, il y a une histoire qui commence. Hein. Et franchement, non, mais c'est pas pour dire. Deux fois sur trois, ça loupait pas. Ah, ouais. Mais.
Sûr.
Oui.
Tant qu'à être dans la légende urbaine, il fallait la
voilà,
consoler.
Quoi. C'est génial. Oui, voilà. Mais en même temps, c'est la vie dans ce qu'elle a de con et de merveilleux. C'est-à-dire, on n'est jamais très brillant. Il n'y a pas d'être toujours sur la ligne de trucs, de la ligne de crête, de je sais pas quoi. C'est un truc. Voilà, bah c'était un peu comme ça.
Caballero, on aime ou on n'aime pas. Caballero, une blonde un peu rude pour 3 francs. Essayez-la.
L'idée du pastis, c'est quoi? C'est donner du plaisir.
Mais là, on est vraiment. Ouais, nous, on se prend pas la tête. On n'a pas une démarche de guide. Voilà, le plus important, c'est que les gens viennent, passent une bonne soirée. On essaie d'être dans un endroit intimiste, chaleureux.
Voilà, la meilleure récompense, c'est quand les gens viennent en couple, sortent, s'embrassent devant la porte avant de partir. C'est que voilà, tu as bien fait ton boulot et que les gens ont passé une bonne soirée. Ça s'arrête là. On n'a pas une démarche d'être le meilleur restaurant. On n'est peut-être même pas le meilleur restaurant dans la rue. Donc on veut juste donner du plaisir aux gens. C'est tout, ça s'arrête là. Autant dans ce qu'il y a dans l'assiette qu'au niveau des vins et de... Ouais, c'est une démarche de plaisir.
Heureux, heureux, heureux comme pas deux, je vais on ne peut mieux. Heureux, heureux, je suis heureux comme le 51. Il n'y en a pas deux, j'en connais qu'un. Et comme lui, je suis heureux. Car c'est dans l'eau qu'il est au mieux. Je veux parler du 51. Pastis, Anisette, Pastis,
dans l'eau. La cuisine, pour moi qui suis pas cuisinier, c'est un vrai métier artistique, la cuisine. À un certain niveau, c'est un vrai...
À un certain niveau, ça l'est totalement.
Une vraie démarche, voilà. C'est un vrai métier...
Le créateur.
Oui, c'est vraiment de la création. Tout à l'heure, on parlait de Thierry Alix. C'est des gens qui créent, qui font. Et comme dans tous les métiers, en cuisine, il y a des créateurs, il y a des précurseurs, et puis il y a des gens qui essaient de. Voilà, ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Ferrand Adria, il y a des gens qui essaient de copier ce que fait ce type, mais ce type est incopiable. Donc, c'est. On arrive des fois à des choses intéressantes, des fois à des choses qui sont beaucoup moins, et des fois à des choses qui sont ridicules parce que tout le monde n'a pas le talent de faire un Andrea, sinon ce serait trop facile.
Je suis fou du chocolat l'envers.
Est-ce que, comme dans le théâtre, tu as eu envie, toutes les semaines de ta vie à Montpellier, d'arrêter à Montpellier ?
Toujours, toujours, même maintenant. Et maintenant, plus que jamais. Mais c'est vrai, mais c'est pas contre Montpellier, c'est contre moi-même. C'est un combat
c'est
contre
pour toi-même.
Contre et pour moi-même. Ouais, c'est un truc, c'est le combat absurde que quelqu'un se livre, la guerre que quelqu'un se livre à soi-même. Il faut quand même se livrer une petite guerre à soi. Quoi. Sincèrement, je pense pas qu'on gagne. Non, je crois que c'est une bataille perdue. Au contraire. Mais il faut qu'elle soit perdue joliment, pas avec de la saveur. Avec... Je sais pas, tu vois, c'est pas grave de perdre une bataille. Mais c'est vrai ce que je te dis, hein, c'est pas un truc. Je sais pas trop. Hein. T'as un moment, tu sais plus où, non. T'as un âge où tu deviens un peu bête, un peu maladroit, un peu sans armes, un peu... Je sais pas que j'en ai eu beaucoup, mais c'est plus trop bien, quoi, ce qu'il faut.
C'est quoi, tu revis l'adolescence de ta vie?
Ouais. Parce que quand j'étais adolescent, j'étais viré du lycée. J'ai pas de diplôme, hein. J'ai même pas le certificat d'études de l'époque. J'ai aucun diplôme. Si les gens d'aujourd'hui, dans les instances qui m'engagent, me demandaient, écoutez monsieur, montrez-moi vos diplômes, alors là je suis cuit, j'en ai pas un. Mais pas un. J'étais viré de l'école et j'ai détourné le bulletin d'exclusion définitive. Et pendant 3 ans, j'ai détourné, mes parents n'ont jamais su de toute leur vie. J'ai fait semblant d'aller au lycée et j'allais dans la forêt pendant 3 ans. Hein. Qui a été la plus grande école que j'ai eue dans ma vie, ouais. Dans la forêt puis dans la ville, hein, c'est-à-dire qu'en plus, faut pas exagérer.
Mais j'ai compris qu'en tout cas, le clivage qui se jouait dans ta vie, c'est dans le bar et à la montagne.
Voilà.
Tu l'as cité
deux fois. Oui, le bar et la montagne. L'endroit où des gens rentrent dans un lieu, tu les connais pas, tu regardes des gens, une fille merveilleuse qui rentre, un être. Un connard ou toi-même qui est un peu con, hein, c'est pas là-dedans. Et j'ai toujours adoré ça. J'aimerais retrouver ça. J'aimerais retrouver ce rien de là. Mais je sais pas si c'est possible. Ça, par exemple, ça existe pas à Montpellier. Ça existe dans les villes où il fait un peu froid. Où les lieux sont un peu... peut être dedans. À Grenoble, tu as des bars, tu vas dans les bars, tu rentres, tu vois une fille qui lit un bouquin, elle va y rester 3 heures. Tu la regardes, c'est merveilleux. Elle reste là 3 heures dans un café pour rien. Tu dis, mais bon Dieu, ça vaut les Rembrandts, ça vaut les trucs. J'ai jamais vu ici.
Ah oui, pourtant Truffaut dit que c'est une des villes où il y a les plus belles filles du monde.
Oui, mais ces plus belles filles prennent pas le temps, peut-être.
Alors, tu regardes, mais c'est hallucinant, quoi. Tu sais, je viens du Brésil, j'ai joué pendant 3 semaines. Sao Paulo
et Porto Alegre.
Alors, on te dit, tu vas voir au Brésil, c'est des filles. Dieu, je suis allé au Brésil, mais c'est pas vrai du tout. C'est... Tu reviens, mais t'as les plus belles filles du monde.
Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi, je dirai ça t'apprendra, je dirai ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, tu le paieras un.
Pour moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir. Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu, parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement, puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes. Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre. Il me semble que je n'ai pas le droit de laisser passer la chance. La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. L'amour physique et l'amour sentimental. Ou même simplement la tendresse désintéressée de quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre pour la vie et ne regarde plus personne. Je n'en suis pas là, moi. Je regarde tout le monde.
Tu cuisines beaucoup, Ariel ?
Ouais, je cuisine, dans les vrais. Et par exemple, Jo, mon copain Jo Lavaudan, est un immense cuisinier. Immense. Alors qu'avant, il bouffait des... Il s'en foutait, tu vois. Il était très urbain. Mais là, grâce à Gabi, tout ça, il a... Et maintenant, c'est un cuisinier, mais hors pair, Jo. Et quand tu fais la cuisine, il fait la cuisine, d'abord, tu n'as pas le droit d'entrer dans la cuisine, il faut laisser tranquille. Il fait tout. Là, tu manges avec, c'est divin, quoi. Vraiment. Hein. Ah, s'il venait là, au moins déjà pour ça. Ah, c'est vrai.
À chaque fois que tu veux arrêter, tu te réinventes à quel endroit?
Je crois que c'est foutu, maintenant. J'ai plus d'endroit.
Oh.
Non, c'est un déconner. Je crois que c'est la limite. Je vois pas d'autre endroit. J'étais à Grenoble, je suis allé à Barcelone. C'est drôle, hein. Je prenais le Talgo à l'époque, espèce de Talgo, Genève, Grenoble, Avignon, Montpellier, Barcelone.
Tour de
Garonne. Je me suis arrêté à Montpellier au milieu. J'ai dit, tiens, j'ai fait la course, quoi. Ma course était peut-être ça, l'itinéraire du train espagnol, le Talgo, qui faisait la ligne. Au fond, je suis heureux et fier d'avoir fait que cette ligne-là. Grenoble, Avignon, j'ai beaucoup joué. Montpellier ici et Barcelone, ça a été ma vie.
Voilà. Mardi.
Miam miam.
On a quand même bien mangé, messieurs.
Oh là là, non mais sincèrement, on a extraordinairement bien mangé.
C'est un petit trésor.
Moi, avec cette difficulté, bon, j'ai la sensation qu'il faut que, enfin, que m'avait invité, qui est bien, mais que j'ai besoin de. De répondre à l'invitation.
Non, il faut que tu en profites.
Hein, mais c'est moins. Mais quand même, c'était vraiment sensationnel, hein, le repas. Vraiment, dis ça.
juste en dessous du conservatoire. Bon, ouais, tu vas jamais à cet âge-là du conservatoire.
À côté, j'habite à 100 mètres.
I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door. In between I drink black coffee. Love's a hand-me-down route. I'll never know a Sunday in this weekday room.
Merci beaucoup, beaucoup Ariel.
Non, c'est pour cette soirée. Vraiment. Mais c'était. Mais c'est vrai, c'était. J'étais un peu inquiet parce que j'ai pas l'habitude, j'ai jamais fait. Et sincèrement, j'aime pas trop parler, comme je vous ai dit, même à l'école, je parle très peu de moi, mais là, c'était.
Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va tout faire pour que tes élèves écoutent cette émission.
Ah ouais, mais je sais pas.
Et par là même, découvrent plein de choses que tu leur as sans doute jamais dit.
J'aurais jamais dit.
Et comme ça, ils ne te poseront jamais les questions.
Ah ben ça, c'est certain, mais ils ne me les posent pas. Parce qu'ils savent, s'ils me les posent, je réponds toujours à côté.
You know a man was born to love a woman. To work and slave, to pay her debts, just because he's only human. To drown.
Attends, moi ça me donne envie tout ça de faire du théâtre.
C'est vrai?
Ouais.
Ah non.
T'as pas du théâtre n'importe où.
Non, il faut y aller.
Avec toi.
Il faut défendre le théâtre. La parole vivante. Les gens, le miroir pour les gens. C'est un lieu unique, c'est incroyable que l'humanité, que les Grecs aient inventé ça. C'est merveilleux. Tant que ça existera, que d'autres gens verront, iront voir le miroir d'eux-mêmes à travers d'autres vivants, ce sera extra. Le jour où ça n'existera plus, il ne faut pas s'inquiéter.
I'm waiting for my baby to maybe come around.
Production, réalisation, montage.
François Barrez, Vincent Cabaroc.
I'm mooning all the morning, morning all the night. In between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee. Feeling low as the ground. It's driving me crazy, just waiting for my baby to maybe come around.